President Gordon B. Hinckley said in an October.
Le président Hinckley a dit lors d'une conférence de presse donnée en octobre 2004, je respecte ce bâtiment, j'aime ce bâtiment, j'honore ce bâtiment. Je veux qu'il soit préservé. Je veux que le vieux tabernacle originel, ses structures faibles renforcées, soient fortifiées et que sa beauté naturelle et merveilleuse soit préservée. Ne faites rien que vous ne devriez pas faire, mais quoi que vous fassiez, faites-le bien et faites-le de manière juste. C'est en ces termes émouvants mais intimidants que la mission a été donnée de conserver, renforcer et rénover le vieux tabernacle originel de Salt Lake City, revitalisé et prêt pour une nouvelle longue période de service distingué. Aujourd'hui, cher Président, nous présentons cet auguste bâtiment, paré d'une toute nouvelle finition, solidement charpenté dans son élégance historique, bien qu'un peu plus confortable. L'épiscopat président et plus de 2000 artisans sont fiers de vous rendre le vieux tabernacle originel à vous et à l'Église avec une garantie de 100 ans. La demande du président Hinckley de remettre en état le vieux tabernacle originel est devenue la norme quand il s'agit de prendre des décisions difficiles en matière d'architecture et de construction. L'expression a été utilisée pour exprimer l'essence et l'objectif du projet. Elle a été l'équivalent de l'étendard de la liberté du capitaine Moroni, en ce sens qu'elle a effectivement été hissée sur toutes les tours et dressée partout où c'était nécessaire. Si ces vieux murs pouvaient parler, ils se joindraient à nous pour remercier sincèrement FFKR Architects, Jacobson Construction Company, l'équipe du bureau d'études de l'Église et les nombreuses personnes dont les talents ont assuré la réussite de cette entreprise complexe. L'un des chefs d'équipe a fait cette réflexion. Lors de nos consultations, le Seigneur a pu nous donner des capacités qui dépassaient nos moyens naturels. Ceux qui étaient chargés du chantier ont éprouvé un grand respect pour la beauté du tabernacle, pour ses constructeurs originels et pour la qualité de leur travail. Cela les a émerveillés que les paroles des prophètes, voyants et révélateurs modernes soient allées au monde à partir de cette tribune. Je suis certain que si ces vieux murs pouvaient parler, ils exprimeraient leur satisfaction pour leur nouveau fondement ferme. Ces vieux murs seraient enchantés de leur nouvelle ceinture en acier qui leur permet de se dresser haut et droit. Ces vieux murs diraient merci de ce que 14 couches de peinture ont été grattées du plafond et remplacées par un lissage et une belle couche toute neuve. Ces vieux murs exprimeraient leur gratitude pour la protection et la beauté d'un toit en aluminium flambant neuf, et comme les bancs seraient heureux de voir le sourire des visiteurs découvrant les sièges légèrement modifiés et quelques centimètres de plus pour les genoux. Ces vieux murs apprécieraient la nouvelle installation conçue pour mieux accueillir les accents d'une musique inspirante. On ne peut qu'imaginer ce que ces vieux murs pourraient se rappeler des nombreux sermons qu'ils ont soigneusement écoutés au cours des années. Ces vieux murs, s'ils pouvaient parler, crieraient. Nous étions là quand Joseph F. Smith s'est levé après une longue maladie pour assister à une session de la conférence générale en octobre 1918. À la session d'ouverture, il a dit d'une voix remplie d'émotion, « Je ne veux pas, je n'ose pas tenter de parler des nombreuses choses qui occupent ce matin mon esprit. Et je remettrai à plus tard, si le Seigneur le veut bien, ma tentative de vous dire certaines des choses que j'ai à l'esprit et qui demeurent dans mon cœur. » Il a continué. « Je n'ai pas vécu seul pendant ces 5 mois. Je suis demeuré dans l'esprit de la prière, de la supplication, de la foi et de la détermination. Et j'ai eu continuellement une communication avec l'Esprit du Seigneur. » Nous avons appris plus tard que la veille de la conférence, le président Smith avait reçu une manifestation constituant la vision de la rédemption des morts, qui est devenue plus tard la section 138 des Doctrines et Alliances. Si ces vieux murs pouvaient parler, ils nous rappelleraient les jours sombres de la Grande Dépression. Il se rappellerait la conférence générale d'avril 1936, quand Heber J. Grant a annoncé que l'Église allait inaugurer un plan de sécurité appelé plus tard « plan d'entraide de l'Église ». 6 mois plus tard, il a expliqué « Notre but principal était d'établir, dans la mesure du possible, un système dans lequel la malédiction de l'oisiveté serait éliminée. » Les mots des allocations gouvernementales abolies et l'indépendance, l'industrie, l'économie et le respect de soi réinstaurés parmi notre peuple. Le but de l'Église est d'aider les gens à se prendre en charge. Le travail doit être remis à l'honneur comme principe directeur dans la vie des membres de notre Église. En octobre 1964, à la demande de David O. McKay, Harold Bealey a paré de la responsabilité parentale. Ces vieux murs se rappellent que Frère Lee a dit qu'il allait lire une lettre de 1915 adressée à l'Église, signée par la première présidence. Avant de commencer, il a dit, je crois que c'est quelque chose du genre de ce que Mark Twain a dit à propos du temps. Nous parlons beaucoup du temps, mais nous ne faisons rien pour cela. Frère Lee a alors lu cette lettre vieille de 50 ans. Nous conseillons et recommandons l'instauration dans toute l'Église d'une soirée familiale où père et mère peuvent réunir chez eux leurs fils et leurs filles autour d'eux et leur enseigner la parole du Seigneur. Nous promettons que si les saints obéissent à cette recommandation, de grandes bénédictions résulteront. L'amour au foyer et l'obéissance aux parents augmenteront. La foi grandira dans le cœur des jeunes d'Israël et ils acquerront le pouvoir de combattre les influences et les tentations mauvaises qui les assaillent. Ces vieux murs se rappellent le profond silence qui s'est fait dans le tabernacle quand, en avril 1985, on a annoncé que Bruce R. McConkie parlerait à la conférence générale. Ces vieux murs ont senti un profond respect envahir l'assemblée quand Frère McConkie a terminé son discours par ces paroles électrisantes. Et maintenant, en ce qui concerne cette expiation parfaite, accomplie par l'effusion du sang de Dieu, je témoigne qu'elle a eu lieu à Gethsémané et au Golgotha. Et pour ce qui est de Jésus-Christ, je témoigne qu'il est le Fils du Dieu vivant et qu'il a été crucifié pour les péchés du monde. Il est notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Cela, je le sais par moi-même, indépendamment de qui que ce soit. Je suis l'un de ses témoins, et un jour prochain, je sentirai les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds, et je mouillerai ses pieds de mes larmes. Mais je ne saurai pas davantage, alors que maintenant qu'il est le Fils Tout-Puissant de Dieu, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur, et que le salut est rendu possible par son sang expiatoire et d'aucune autre manière. En 1995, le président Hinckley a dit aux femmes de l'Église, avec tous les raisonnements spécieux qui sont présentés comme des vérités, avec toutes les tromperies à propos des principes, avec toutes les incitations à nous laisser gagner peu à peu par la souillure du monde, nous nous sentons poussés à lancer un avertissement. Il s'est alors mis à lire. Nous, première présidence et conseil des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ et saints des derniers jours, déclarons solennellement que le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres, à observer les commandements de Dieu et à obéir aux lois où qu'ils vivent. Les maris et les femmes, les mères et les pères seront responsables devant Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de ces obligations. Je suis reconnaissant pour ce bâtiment extraordinaire. C'est un monument sacré de notre passé et une bannière magnifique d'espoir pour l'avenir. Je témoigne de la divinité de notre Père Céleste et du grand amour de notre Sauveur pour chacun de nous. Nous sommes grandement bénis d'être dirigés par un prophète de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.